premier jour de notre neuvaine, demandons la grâce d'être disponible aux inspirations de l'Esprit-Saint, demandons-le par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Devenir l'ami de l'Esprit-Saint. Est-ce que nous y avons déjà pensé? Être l'ami de Jésus, cela paraît naturel, presque automatique, et cela grâce aux séances de catéchèse que nous avons pu recevoir, et surtout grâce à cette parole de Jésus. Dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Être l'ami de l'Esprit-Saint, cela peut nous paraître beaucoup plus abstrait, sans doute à cause de nos difficultés à nous le représenter. Pourtant, si Jésus nous appelle « mes amis », c'est que nous devons être des intimes de l'Esprit-Saint. C'est ce que nous allons chercher à découvrir au cours de cette neuvaine préparatoire à la Pentecôte. Benoît XVI, dans un message adressé aux jeunes à l'occasion des 23e Journées mondiales de la jeunesse en 2008, disait « Une question surgit naturellement. Qui est l'Esprit-Saint pour moi ?» Pour de nombreux chrétiens, en effet, il est encore le grand inconnu. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu lointain et mystérieux, qui se révèle à seulement quelques privilégiés. Au contraire, toute la Bible nous montre comment Dieu a cherché à se manifester, et cette épiphanie culmine en la personne de Jésus. Dans cette dernière révélation, l'Esprit-Saint joue un rôle fondamental. D'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres en témoigne quasiment à chaque chapitre. L'Esprit-Saint n'est donc pas le petit dernier de la Sainte Trinité, que l'on nomme parfois hâtivement en faisant notre signe de croix et que l'on fête une fois l'an à la Pentecôte. Chaque dimanche, dans le Credo, nous répétons consciencieusement « Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. » Alors concrètement, comment nous honorons et nous vénérons l'Esprit-Saint dans notre vie quotidienne? Nous verrons que se mettre à son écoute peut nous ouvrir des horizons insoupçonnés. Pour cela, il faut commencer par mieux le connaître, et le meilleur moyen pour le connaître, c'est d'entendre Jésus nous en parler. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, verset 7. Mettons-nous à la place des disciples qui vivent avec Jésus depuis 3 ans, 7 jours sur 7, et qui entendent cette parole. Il peut y avoir un certain sentiment d'abandon. Ce n'est évidemment pas le cas, puisque Jésus leur promet le paraclet, ce qui veut dire littéralement « appelé à côté », d'où la traduction de « défenseur », d'avocat. Jésus, en annonçant à ses disciples qu'il va se retirer, leur fait la promesse que Dieu sera à leur côté en permanence. Est-ce que ce n'est pas sensationnel? Et si ce n'est pas sensationnel, je me demande alors ce que c'est. Cependant, l'Esprit-Saint n'apparaît pas dans l'histoire du salut qu'une fois que Jésus est parti. Déjà, à la création, l'Esprit-Saint est là. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Et ce, jusqu'à la fin, l'Esprit Saint est là, jusqu'à la fin de la révélation biblique, comme nous le dit l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens », celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive de l'eau vive, de l'eau de vie, de l'eau de la vie, gratuitement. Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Mais les passages qui parlent le mieux de lui sont ceux où Jésus le présente et nous les retrouvons au chapitre 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, comme par exemple au verset 17 du chapitre 14. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non seulement Jésus nous confirme qu'il demeure auprès de vous, auprès de nous, mais en plus, il nous annonce qu'il va venir habiter en nous. C'est totalement inouï de penser que Dieu veut vivre dans nos pauvres corps. Non seulement il veut vivre en nous, mais en plus, il nous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Comme Jésus nous l'a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 26. La promesse de Jésus ne s'arrête pas là, en nous assurant de nous donner un aide-mémoire infaillible. Au chapitre 15 de l'évangile de Jean, les versets 26 et 27, il nous dit « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » Ainsi, nous comprenons que si nous sommes fidèles à Jésus, l'Esprit Saint nous assurera dans notre témoignage de vie, qui peut se résumer avec ces deux versets, les 12 et 13 du chapitre 15 de l'Évangile de Jean, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. » L'Esprit Saint est donc la personne qu'il fallait que nous rencontrions pour faire l'expérience de l'amour véritable. Le Père Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale. En 2016, il disait « L'Esprit Saint, malgré tout, restera toujours le Dieu caché, même si nous connaissons ses effets. Il est comme le vent. On ne voit pas d'où il vient et où il va, mais on voit les effets de son passage. Il est comme la lumière qui éclaire tout ce qui est devant, en restant elle-même cachée. C'est pourquoi il est la personne la moins connue et la moins aimée des trois, bien qu'il soit l'amour en personne. Il nous est plus facile de penser au Père et au Fils comme personne, mais plus difficile pour l'esprit. Aucune catégorie humaine ne peut nous aider à comprendre ce mystère. Pour parler de Dieu, le Père, nous avons l'aide de la philosophie qui s'occupe de la cause première. Pour parler du Fils, nous avons l'analogie du rapport humain Père-Fils. Et le Verbe s'étant fait chair, nous avons également l'histoire. Pour parler de l'Esprit, nous n'avons rien, sinon la révélation et l'expérience. Les Écritures elles-mêmes parlent de lui en se servant toujours de symboles naturels, la lumière, le feu, le vent, l'eau, le parfum, la colombe. Nous ne saurons vraiment qui est l'Esprit Saint qu'au paradis. Nous le vivons même dans une vie qui n'aura pas de fin, dans un approfondissement qui nous donnera une joie immense. Ce sera comme un feu très doux qui inondera notre âme et la comblera de béatitude, comme lorsque l'amour touche le cœur d'une personne et que celle-ci se sent heureuse. Fin de la citation. Ne tardons plus à chercher à connaître ce grand inconnu, car si ce qui nous est promis au ciel risque d'être prodigieux, nous pouvons déjà en avoir un avant-goût sur cette terre. C'est aussi ce que Benoît XVI conseillait aux jeunes lors des JMJ de Sydney. Je le cite. Il est donc fondamental que chacun de vous, les jeunes, dans sa communauté et avec ses éducateurs, puisse réfléchir sur le protagoniste de l'histoire du salut, qu'est l'Esprit Saint, ou Esprit de Jésus, pour parvenir au but élevé suivant, reconnaître la véritable identité de l'Esprit, d'abord en écoutant la parole de Dieu dans la révélation biblique, prendre conscience lucidement de sa présence continue, active, dans la vie de l'Église, en particulier en redécouvrant que l'Esprit Saint se présente comme âme, souffle vital de la vie chrétienne, grâce au sacrement de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Devenir ainsi capable de mûrir une compréhension de Jésus toujours plus approfondie et plus joyeuse, et en même temps de réaliser une mise en pratique efficace de l'Évangile à l'aube du troisième millénaire. Ce travail de réflexion est aussi valable pour nous. Cependant, ce n'est pas sous un angle théologique pur que nous sommes appelés à le faire, mais à la manière des apôtres qui écoutaient Jésus les enseigner. Ainsi, nous pourrions relire les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile de Jean en faisant tout spécialement attention à la manière dont Jésus parle de l'Esprit Saint. Ou si vous avez lu en continu les Actes des Apôtres, essayez de vous remémorer quelques passages décrivant l'œuvre de l'Esprit Saint et contemplez comment il est intervenu et ce que ça a produit. Si son action a transformé la vie des apôtres et des disciples, alors il peut évidemment agir dans la nôtre pour faire de nous des disciples missionnaires. Alors, prions, prions l'Esprit Saint avec cette prière de Marthe Robin. Seigneur, envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Esprit Saint, Dieu d'amour, venez tel un vent puissant dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières. Amen. Bonne soirée et à demain.